Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de détection de retouches d'image avec Tina Nikuka. Bonjour Tina.
Bonjour.
Pour discuter avec elle, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Vladimir Kola.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et Hervé Schauer.
Bonjour.
Alors Tina, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Alors oui, alors déjà merci pour l'invitation. Je m'appelle Tina et je suis chercheuse en traitement d'images et j'ai effectué ma thèse sur la détection de falsification dans les images et les vidéos.
Alors Tina, pourquoi est-ce que parfois les gens falsifient les images ?
Alors il peut y avoir des raisons diverses et multiples, hein, des bonnes raisons, comme pour rajouter un peu d'humour dans une image. Je pense que ça vous arrive de vous envoyer des mails avec des photos retouchées.
Même des publications sur les réseaux sociaux.
Exactement. Enfin, c'est très à la mode aujourd'hui de faire des mèmes et de détecter les mèmes. Peut avoir aussi des raisons moins nobles pour propager de la fausse information. Donc ça, c'est un travail de journaliste et de fact-checker que de détecter ces falsifications-là et donc d'utiliser nos outils. Et peut y avoir d'autres raisons encore plus graves et même interdites par la loi, comme des fraudes à l'assurance ou mentir à la police, par exemple.
Ah, tu as aussi tout ce qui est faire des menaces, menacer les gens du chantage avec des montages genre porno, des trucs comme ça. Tu peux avoir aussi tout ce qui est triche au faux dossier de location d'un appartement. Tu as beaucoup de cas d'usage quand tu modifies tes fiches de paye, des choses comme ça.
Effectivement, les cas de pornographie, c'est un bon exemple parce que malheureusement, c'est les premiers cas qu'on a vus avec les vidéos, les deepfakes, on appelle les vidéos hyper truquées. Le premier cas d'usage, c'était pas pour le cinéma ou la télévision malheureusement, mais c'était pour mettre des acteurs connus dans des films pornographiques.
Alors, tu as réalisé une thèse qui s'intitule « La vie secrète des images JPEG, détection de falsification via les traces de compression ». Qu'est-ce qui t'a amené à réaliser cette thèse ?
Alors, bien avant, donc il y a 12 ans maintenant presque, j'avais fait mon projet de classe préparatoire, le TIPE, travaux individuels, je ne sais plus exactement le terme, sur le watermarking. Alors le watermarking, tatouage numérique en français, c'est le fait de signer numériquement une image ou une vidéo. Donc de la même manière qu'un photographe qui peut écrire en gros sur sa photo « propriété de » et son nom, là, on intègre une signature sur une image, partout, mais de manière invisible. Donc ça sert pour tout ce qui est propriété intellectuelle et typiquement aussi pour dans des cas de jeux vidéo. Moi, c'était ça que j'avais observé. Donc j'avais 18-19 ans. J'avais vu un cas, un jeu vidéo, où quelqu'un disait à sa communauté le premier qui bat ce méchant dans tel jeu, je lui offrirai tant de cadeaux, tant de goodies. Et là, sur son blog, il y a des gens qui ont posté des photos. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait volé l'image de quelqu'un d'autre. Et pour savoir que cette image ne lui appartenait pas, on arrivait à récupérer le watermarking, donc le tatouage numérique derrière l'image, et on savait que l'image appartenait à tel individu. Et donc j'ai fait mon projet de TIPE là-dessus, parce que j'ai trouvé cette information assez intéressante. Et ça, c'est assez proche de ce que j'ai fait ensuite en thèse. Et donc quand on m'a proposé ce sujet de thèse, parce que ça commençait à être un peu à la mode, le fait de détecter les photomontages, c'était un peu mon premier amour informatique, donc j'ai accepté.
Alors, c'est marrant parce que ça me fait penser à une histoire, je crois que c'est 2011-12 sur World of Warcraft. Je crois que c'est Blizzard qui faisait watermarker. Enfin, en gros, tu pouvais, les gens communiquaient sur les forums, je sais pas, prenaient des captures d'écran, je sais plus la raison exacte. Mais Blizzard avait mis des watermarking, en fait, je crois que c'était un ton de couleur, de luminosité en plus ou en moins avec l'ID de l'utilisateur. Et dès qu'il faisait les captures d'écran et les publiait, en gros, Blizzard était capable de savoir de qui venait la capture d'écran. Il y avait un truc comme ça, je crois, non ?
Eh bien, c'est exactement ce jeu vidéo-là. Je n'avais pas... C'est exactement cette anecdote-là.
Ça tombe bien.
J'en ai une autre, si vous voulez. J'ai une autre anecdote assez marrante sur ce sujet. Là, pour le coup, c'est sur de la vidéo. Alors, je vais essayer de ne pas trop me tromper. Donc, il y a une personne qui travaille pour le monde du cinéma qui, un jour, est partie en vacances et donc a demandé à son voisin de s'occuper de son chat et donc de venir nourrir son chat tous les soirs. Et pendant qu'il s'occupait du chat, le voisin avait le droit également de profiter du home cinéma de cette personne qui est donc dans le monde du cinéma, qui devait avoir une pièce immense avec plein de films. Et donc le voisin venait s'occuper du chat et regarder un film. Et en fait, donc la personne qui travaille dans le cinéma, un mois, deux mois après, s'est retrouvée même, je crois, en prison. En tout cas, elle a une énorme amende parce que ils lui ont dit qu'il avait fuité des vidéos, des extraits d'un film qui n'était pas encore sorti au cinéma. En fait, il s'avère que avant de se faire sortir un film au cinéma, le film est partagé à un jury, enfin comme ceux du Festival de Cannes ou autre. Et ces personnes, elles ont une copie avec nominative de ce film. Donc le film est tatoué avec, donc cette fois-ci, l'identifiant de la personne. Et donc si la personne, elle met ce film sur Internet, même si on l'envoie, elle est partagée avec différents formats, si on extrait des morceaux ou quoi, la signature, elle est toujours présente. Et donc la police, ou en tout cas le monde du cinéma, avait retrouvé ce film-là, avait retrouvé la personne et voulait mettre cette personne en prison, alors qu'en fait, c'était son voisin qui avait gardé son chat.
Ne faites pas garder vos chats.
C'est ça la morale.
Tu es pour la mort des chatons, c'est ça?
Mais non.
Non, mais ne prêtez pas votre appartement avec des informations confidentielles, puisque là, il s'agit d'une mauvaise protection d'une information secrète. On retombe dans les mauvaises pratiques vis-à-vis de la cybersécurité.
Alors, on va revenir sur la thématique de l'épisode, à savoir la détection de retouches d'images. Comment est-ce que tu fais pour déterminer qu'une image a été retouchée?
Alors, j'utilise un peu l'approche d'un grand chercheur qui s'appelle Annie Farid, qui est un chercheur qui est à UC Berkeley. C'est lui qui est un des pionniers même de la détection de falsification. Et son approche à lui, c'est qu'une image, c'est un objet mathématique qui a subi plusieurs opérations. Donc pour avoir le résultat final qu'on a l'habitude de voir coloré, joli, l'image, donc ce qui a été reçu par le capteur quand la lumière est rentrée dans l'objectif, a subi différentes formules mathématiques, différentes opérations qui ont laissé des traces dans l'image. Et ces traces, elles sont pas forcément visibles, mais on peut les détecter. Et moi, je cherche donc à détecter ces traces pour savoir ce qui est arrivé à une image. Et quand j'arrive un peu à savoir, donc vraiment comme mon travail d'enquêteur, ce qui est arrivé à une image, je regarde ensuite localement pour savoir si toutes les parties de l'image ont subi les mêmes opérations ou non. Donc je détecte les anomalies des opérations dans l'image. Je peux faire une analogie si vous voulez.
Ah bah avec plaisir.
Alors, il y a une analogie plus ou moins glauque. Hein. Il y a l'analogie, par exemple, du médecin légiste. Parce qu'en fait, mon domaine, ça s'appelle Image Forensics en anglais. Mais le terme forensique, en français, on dit forensique parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction jolie. Sinon, c'est médico-légal et enfin, bah, ça ne marche pas parce que c'est que pour la médecine. Mais c'est un peu la même chose. C'est, les médecins légistes, ils regardent des cadavres. Ils analysent des cadavres, nous on analyse des images. Et par exemple, on regarde donc l'image, on veut voir si l'ADN partout de l'image est la même. Si par exemple, on observe donc déjà l'ADN, donc ça c'est l'extraction du bruit. On peut faire une analogie avec ce que nous on fait, on extrait le bruit dans une image, c'est un peu comme l'ADN d'un humain. Par exemple, si l'ADN est alien, enfin ce n'est pas un humain, c'est comme un peu les images générées, les nouvelles images qui sont générées. C'est pas des images réelles, c'est pas des images qui sortent d'un appareil photo, donc on peut dire que son ADN n'est pas humain, c'est un martien peut-être, voilà. Ensuite, localement, on regarde cet humain-là, on peut voir que par exemple son foie a 5 ans, alors que l'humain a 30 ans. Bah, là, on peut voir que le foie, donc c'est une greffe, de la même manière à ce que localement, on voit que cette partie de l'image, elle provient d'une autre image qui a 5 ans et pas l'âge du corps global, quoi. Donc c'est vraiment la même approche.
Et ça fonctionne même quand on utilise tous les outils de duplication de zones, comme dans Photoshop, là, quand on utilise des petits tampons, pour aller recopier une zone vers une autre zone. Et là aussi, tu es capable de détecter ce genre de modification?
Effectivement. Donc là, pour ce type de falsification, l'analogie ne fonctionne pas. Mais ça marche aussi, parce qu'en fait, les traces dont je parlais tout à l'heure, c'est des traces qui sont souvent périodiques. Je cherche à les détecter globalement dans l'image, mais je sais aussi comment elles sont censées être. Et donc, quand j'observe une anomalie, si je déplace une partie, par exemple, d'une image, ça va déplacer aussi la trace, et donc je vais savoir qu'il y a eu un décalage. Et ces traces-là, ce type de falsification, on le détecte bien. Je vais un peu loin dans mon analogie, mais c'est comme si le foie se trouvait à la place du poumon, quoi.
Et quel est le niveau de précision? Est-ce que ça a parfois des faux positifs ou
C'est une très bonne question, oui. Malheureusement, la plupart des méthodes qui existent ont énormément de faux positifs. Pas parce qu'elles sont mauvaises, mais c'est parce qu'elles ont été fabriquées pour ne pas faire attention aux faux positifs. C'est vraiment... ça a commencé avec des cartes de chaleur, donc c'est vraiment le but de montrer... tout ce qui ne va pas, et ils ont pas et ils ont toujours considéré que ces méthodes étaient regardées par des experts, hein, des analystes, et donc ils ne voulaient pas contrôler leurs faux positifs, alors que pour le coup, nous, dans notre recherche, on fait justement des méthodes avec un contrôle de faux positifs. Vraiment, notre but, c'est d'être sûr, en fait, quand on a une falsification. Et donc, mes méthodes, non, mais l'état de l'art, oui.
Quand tu parlais de cartes de chaleur, je pense que c'est ce que... ça fait longtemps que j'ai pas fait de CTF, mais c'est un peu les outils qu'on utilise pour faire des CTF. Je crois que c'est Photo Forensics qui permet de faire ça, où en fait, tu as une présentation de la photo qui te montre avec plus de... Bah, comme sur une analyse thermique, plus de, je sais pas, de rouge, je sais pas quoi, sur les zones qui potentiellement ont été modifiées ou altérées.
Exactement.
Ouais, ok.
Et ce que je dis, moi, parce qu'en fait, je donne aussi un cours à des journalistes, justement, pour leur parler de traitement d'image, parce que c'est des gens qui ont eu énormément de cours sur tout ce qui est traitement du langage. Enfin, ils écrivent super bien, mais quand ils écrivent un article, ils l'illustrent aussi, et pourtant, ils n'ont aucune connaissance sur l'image. Donc, c'est bien qu'ils suivent des cours de traitement d'image. Et justement, ce que je leur dis, c'est que ces méthodes-là, elles sont très bien, mais bon, encore une fois, désolée pour l'analogie, mais c'est comme si vous faisiez un scanner ou une radio. Donc, il y a plusieurs méthodes différentes. Donc on les appelle des filtres, et ces filtres font ressortir des zones différentes pour des raisons différentes, donc comme le scanner, l'IRM ou la radio. Et pourtant, c'est quand vous faites une radio, vous n'avez pas en sortie cette zone cassée. Vous avez la radio, le médecin va venir, va l'interpréter. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait un médecin qui vienne interpréter. Il n'y a pas besoin que bon, du coup, ce serait moi le médecin, que je sois là pour interpréter. Souvent même, je ne peux pas le faire. On crée un outil, donc un algorithme de détection qui est capable de directement donner un résultat avec une probabilité d'erreur.
Et donc, je reviens sur la précision. Tu disais donc il n'y avait pas de faux positifs, ou je n'ai pas bien compris cette partie-là.
Alors, les méthodes actuelles, il y a beaucoup de faux positifs.
Ah, ok, d'accord.
Voilà. Nous, en tout cas, dans mon équipe, on travaille sur des méthodes où on contrôle le nombre de faux positifs. Donc, on essaye vraiment de ne pas en avoir. Ce qui peut déplaire aussi, parce que souvent, la personne sait où est la falsification. Elle utilise ses filtres pour en trouver un qui va sélectionner la zone. Pas forcément pour les bonnes raisons. Et ils sont souvent déçus, parce que si ce n'est pas la bonne raison, on ne détecte pas. Et nos méthodes, par exemple, on contrôle les faux positifs parce qu'on sait exactement quelle anomalie et de quelle trace on cherche. Donc, en tout cas, nous, on ne travaillera jamais sur une méthode qui va détecter toutes les falsifications du monde. Chaque méthode va détecter un type de falsification.
D'accord.
Une anomalie de trace, en fait.
Mais tu peux les combiner.
Exactement. Il faut ensuite les combiner pour avoir des résultats plus ou moins précis, oui. Et pour la précision, c'est aussi important de savoir que certaines méthodes, mais ça, bon, c'est de plus en plus rare, on est quand même proche... Par exemple, moi, j'ai des algos qui sont proches à aller 64 pixels par 64 pixels. Donc, c'est aussi proche pour la partie de l'image que je vais sélectionner comme étant fausse, je peux bien la détourer.
Et tu as également un moteur de règles qui va combiner ces différents filtres pour déterminer si... ce filtre, plus ce filtre et ce filtre-là se sont déclenchés, c'est que donc la probabilité sera plus importante, ce genre de choses ?
C'est le but, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de méthodes. En fait, ça ne sert à rien de combiner des méthodes qui regardent les mêmes traces. Là, l'idéal, ça serait de combiner des méthodes qui regardent des traces différentes. Si vous voulez, je peux revenir sur la formation d'une image. Une image, d'où le titre de ma thèse, hein, c'est à une vie. Donc, elle a... une vie, par exemple, elle a une étape de, ça s'appelle dématrissage ou démosaïquage. Donc ça, c'est une étape dans sa vie. Elle a une étape de balance des blancs. Elle a une étape de recalage par rapport à l'optique. Elle a une étape de, par exemple, à la fin de compression. Et moi, par exemple, je me suis vraiment intéressée à la partie compression. Donc c'est vraiment les anomalies de cette trace-là que je regarde. Mais j'ai des collègues qui regardent les autres traces. Et quand on combine nos méthodes, effectivement, si on a des méthodes qui n'ont pas de faux positifs, on peut les combiner et prendre les probabilités. Mais le problème, c'est que quand on a des méthodes qui ont toujours des faux positifs, on peut pas se combiner à elles, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème. Et pour aujourd'hui, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que l'idéal, ça serait j'espère bientôt, avoir que des méthodes fiables, pouvoir les combiner pour avoir toujours au moins un résultat.
Concrètement, ton outil se présente sous quelle forme ? C'est un code open source ? C'est une API web ? C'est un travail, un code attaché au résultat de ta thèse ?
Alors, dans le cadre de ma thèse, j'ai rencontré le responsable du Media Lab de l'AFP, qui s'appelle Denis Tessou, et qui a créé un plugin gratuit qui est utilisable sous Google Chrome, entre autres, qui permet de vérifier des images et des informations sur les réseaux sociaux. Et donc l'outil est gratuit, et à l'intérieur de cet outil, il y a plein de choses différentes. Hein. On peut retracer des tweets, on peut faire de la détection de texte dans les images, etc. Mais on peut également aussi appliquer ces filtres de détection de retouches sur les images qui sont sur Internet. Et mon algorithme fait partie des méthodes qui sont disponibles dans l'outil. Et sinon, nous, tout ce qu'on fait, c'est open source. Enfin, en tout cas, moi, tout ce que je fais, c'est open source. Et je publie également dans un journal en ligne qui s'appelle IPOL. IPOL.im, donc de traitement d'image, ou comme un journal de science classique, il y a un article qui explique bien la méthode, mais là qui explique vraiment la méthode. C'est pas, on est là même pour donner tous les défauts de la méthode, bien expliquer toutes les limitations, tous les exemples, etc. Et c'est accompagné d'un code, un vrai code qui est de la même manière que l'article est révisé. Donc il y a vraiment des éditeurs et des réviseurs qui vont regarder l'article, qui vont comparer pour voir si ce qui est dans l'article, donc il y a un pseudocode dans l'article, correspond exactement au code source. Et en plus de ça, il y a aussi un petit onglet sur le site pour chaque méthode où il y a une démonstration en ligne, donc les gens peuvent tester avec leurs propres images les algos et avoir le résultat de la méthode. Donc c'est vraiment tout science ouverte, gratuite, libre, tout.
Et donc c'est quel type de code? C'est quoi? C'est du Python
Ça dépend. Moi, par exemple, je code en C, mais typiquement pour l'AFP, donc pour l'intégrer dans leur outil, il fallait faire un binding Python parce que eux, ils parle Python, quoi.
Et alors, comment s'appelle le plugin qui est utilisable dans Chrome?
InVid WeVerify. WeVerify.
Et pour ce qui concerne le résultat de tes outils, est-ce que ça surligne une zone ou est-ce que ça te donne une probabilité?
Ça ressort effectivement par-dessus l'image, ça met en bleu ou en rouge, en une petite couleur, les parties qui sont des anomalies par rapport au reste de l'image. Et effectivement, dans l'outil de l'AFP, on sort que le résultat final, alors que par exemple sur IPOL, comme c'est un journal scientifique, il y a aussi les étapes intermédiaires pour ceux qui veulent comprendre la méthode, parce qu'il y a forcément des étapes intermédiaires.
Est-ce que tu as des exemples du coup d'utilisation de ton plugin dans la vraie vie? Enfin, tu parles de l'AFP, etc. Est-ce que des gens l'ont utilisé récemment sur des sujets qui ont fait l'actualité et ont réussi à ressortir des informations utiles?
Oui, alors déjà, avant, au début de ma thèse, même ce qui m'a vraiment motivée à m'intéresser j'étais intéressée par l'actualité, mais vraiment, où j'ai vraiment compris qu'il y avait un lien direct entre mes travaux de recherche et l'actualité, c'est il y avait eu un cas de fausse information au sujet d'une jeune lycéenne américaine qui s'appelait Emma Gonzalez. Elle avait été témoin, malheureusement, de la mort de dizaines de ses camarades lors d'une tuerie dans son lycée en Floride. Donc, arme à feu, etc., un jeune qui s'est ramené avec son arme à feu. Et ensuite, elle a été l'égérie de tout ce qui est campagne contre les armes à feu. Et en fait, un jour, on a retrouvé sur les réseaux sociaux, ça a fait le tour du monde, hein, pour que ça arrive jusqu'à nous, en tout cas, ça a fait le tour du monde, on a retrouvé une image d'elle qui était en train de déchirer la Constitution américaine. Et en fait, c'était tous ceux qui sont pro... arme à feu qui avait partagé cette information-là en disant qu'elle était contre la Constitution américaine, parce que, preuve, elle déchire une Constitution. L'image n'était pas très réaliste, mais il n'y avait pas d'outil à l'époque, donc c'était en 2018, il n'y avait pas d'outil à l'époque pour automatiquement dire que l'image est fausse, et en plus, je pense qu'on était moins habitués à avoir autant de photomontages, même si c'était déjà là un peu le début de tout ce qui est fake news, etc. Et donc moi, j'ai regardé cette image-là. Alors, premier réflexe à avoir, c'est vrai, on cherche à retrouver la source de l'image, donc on essaye de voir à partir de quelle image cette image a été photoshopée, sauf qu'en fait, on l'a trouvée pas, parce que, bon, après on l'a su, c'est que cette image est une capture d'écran d'une vidéo, où en fait, on l'avait filmée parce qu'elle allait faire la couverture d'un magazine Teen Vogue où elle déchire une cible, donc pas du tout une constitution. Donc on n'avait pas l'image originale, et là j'ai essayé le premier prototype d'un de mes algos, et ça a marché, donc c'est ça qui m'a déjà donné envie de tester toutes les images qui passaient sur les réseaux sociaux. Et sinon, dans ma thèse, pour illustrer, et pour pas bien sûr mettre des choses tristes, comme cette histoire-là ou d'autres histoires de guerre, j'utilise les images de Guillaume Tessé. Je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Tessé. C'est un photoshopper professionnel. Je lui ai demandé s'il était d'accord que j'utilise ces images dans ma thèse.
C'est le gars qui dit « enlève-moi ce bouton » et puis en fait, parce qu'une fille a un bouton sur la joue, puis en fait, c'est le bouton qui est sur le fond du mur qui l'enlève ou quelque chose comme ça.
Lui aussi, j'utilise, effectivement, sur Facebook. Ouais. Mais non, c'est pas lui. C'est celui qui fait des croisons-les. En fonction de l'actualité, il mélange deux visages. Donc, par exemple, je sais pas, enfin, des cas drôles, c'est typiquement pendant la Coupe du Monde de rugby, il va forcément mélanger le visage d'un joueur de rugby avec, par exemple, le même soir, il y avait Spider-Man sur une autre chaîne, bah, avec Peter Parker, il va mélanger les visages. Et il fait ça sur plein de sujets d'actualité. Donc, il y a énormément de visages d'Emmanuel Macron ou de Trump ou d'autres personnalités politiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des vraies falsifications, dans le sens où c'est fait par un professionnel de Photoshop et qu'elles sont ensuite utilisées par sur les réseaux sociaux. Parce que le problème de certaines méthodes aussi, c'est que tout de suite, quand on fait des images, on les met dans la vraie vie, c'est-à-dire publiées sur les réseaux sociaux, donc l'image est compressée, parfois la taille change également, et bien les méthodes ne marchent plus. Et donc là, vraiment, moi, ça me fait une base de données immense, parce qu'il fait ça quand même tous les jours, j'ai l'impression, d'images cas réels, donc de vraies falsifications, où je peux tester mes méthodes, donc ça, c'est pas mal. Pour finir, il y a aussi donc des sujets moins drôle. Par exemple, la guerre entre l'Israël, avec l'Israël et le Hamas, où il y a eu des échanges d'images fausses. Et là, j'ai été contactée parce que... Enfin, ils n'ont même pas besoin de me contacter, parce que donc, mon algo est dans l'outil, donc les journalistes l'utilisent dans plus de 40 pays dans le monde. Mais là, comme c'était en plus un journaliste français, il m'a contactée pour que je lui dise... pourquoi ma méthode s'était justement allumée et avait détecté les falsifications. Parce que je peux expliquer plus que simplement le filtre qui est dans le plugin. Hein. Je peux vraiment, comme je vous l'ai dit, retracer un peu l'historique de l'image. Et donc, j'ai analysé moi, en plus du résultat du filtre, l'image. Je lui ai donné une explication un peu plus complète qu'il a mis dans son article de fact-checking.
Oui, effectivement, le gars auquel je pensais s'appelle James Friedman. Et il faut absolument aller voir son compte Twitter.
T'as d'autres usages, alors tout à l'heure on parlait de falsification de documents un peu moins rigolo que des photos parodiques. Tu as des assurances, des banques, des entreprises de ce type-là qui utilisent ce type d'outils, tes outils pour essayer de détecter des faux, comme je parlais tout à l'heure, de faux dossiers pour des appartements, des locations, des choses comme ça.
Pas que je sache, peut-être que oui, mais actuellement non. Mais j'ai déjà discuté effectivement avec des entreprises d'assurance, des grandes boîtes de téléphonie et autres aussi. Parce que, enfin, on s'en doute pas, mais les images aujourd'hui, c'est vraiment utilisé partout. Donc toute personne qui effectue un acte aujourd'hui prouve son acte en prenant une photo. Et donc souvent, on est payé à l'acte. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails de l'entreprise parce que là, tout de suite, on va savoir de quoi je parle. Mais on est souvent payé à l'acte et il y en a qui s'amusent à s'envoyer des photos sur des groupes WhatsApp et donc demander à être payé plusieurs fois pour le même acte en changeant, par exemple. Le numéro de dossier qui est sur l'image, quoi. Donc c'est vraiment pareil, c'est comme le document pour avoir un bien immobilier ou à la banque ou quoi, c'est du texte, c'est très facile à copier-coller, et ça, c'est apparemment fait très souvent.
Comme en cybersécurité, les SOC qui sont facturés au ticket et qui ouvrent des tickets pour ouvrir un ticket.
Ben voilà.
Et est-ce que tu as des pistes pour améliorer encore ces algorithmes ?
Alors oui, j'ai pas mal de pistes pour améliorer ces outils parce que aujourd'hui, donc, c'est même vous les avez trouvés tout seuls la piste parce que aujourd'hui les méthodes elles sont quand même rangées par famille de traces etc, mais elles sont pas du tout combinées. Alors pas forcément combiner les résultats déjà. Enfin, juste pour pas forcément combiner les cartes de chaleur ou les probabilités, etc. Ça, c'est déjà fait un peu. Mais bon, les tares d'une méthode se propagent, malheureusement. Là, ce serait plutôt combiné étape par étape. Parce que, par exemple, le travail que moi, je fais en tant qu'enquêteur, entre guillemets, hein, c'est personnel. Hein, j'ai ma procédure personnelle. Moi, quand je vois une image, j'aime bien appliquer des choses dans un ordre précis. Et je pense que cette tâche-là, déjà, pourrait être automatisée. Parce que, par exemple, je vais pas appliquer un algorithme... l'algorithme numéro 4, je vais pas l'appliquer si en fait avant j'ai vu que l'image était trop mauvaise qualité. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas un outil qui est vraiment une grosse chaîne où on met l'image et regarde la qualité de l'image, donc applique cette méthode oui ou non, etc. Et ça, je pense que c'est une amélioration qui n'est pas super compliquée et qui. Enfin, il faut juste que je prenne le temps et j'aimerais le faire, ouais.
Une question sur les images qui sont 100% générées. C'est-à-dire, si tu vas dans Midjourney ou n'importe quel système de génération d'images en ligne à base d'IA aujourd'hui, et que tu demandes quelque chose de photoréaliste, est-ce que c'est facile de voir que c'est pas une vraie photo, ou est-ce que, comme il n'y a pas de modification, tu vois, il n'y a pas de problème de balance des blancs qui change à un endroit, du coup, c'est un problème ouvert aujourd'hui?
C'est pas facile, mais c'est faisable, parce qu'on a observé que justement ces images-là, elles avaient une trace, donc un ADN qui était différent d'une image classique qui sort d'un appareil photo. Sauf que malheureusement, quand ensuite l'image, elle a la même vie, par exemple, on peut prendre deux images. Une image qui sort d'un appareil photo, elle a des traces qui viennent de l'appareil photo. Ensuite, on a une image qui sort de Midjourney, et à cette étape-là, donc là, on est juste sur notre ordinateur, on peut comparer ces deux images et voir qu'il y en a une qui a des traces donc d'humains, enfin des traces d'appareil photo, et une autre qui a des traces. Alors on n'a pas encore. On peut même dire souvent de quelle méthode d'IA ça vient. C'est Midjourney ou DALL-E ou Firefly, etc. Mais le problème, c'est que ensuite ces images-là, elles sont partagées sur les réseaux sociaux. Et donc elles peuvent avoir à partir de ce moment-là la même vie. Donc les deux images peuvent être envoyées sur WhatsApp, puis par mail, puis recadrées, etc. Et donc elles auront des traces qui seront similaires, donc c'est dur de retrouver au départ les traces de cette image-là. Mais on travaille là-dessus, parce qu'on a par exemple observé que les images synthétiques, elles avaient des traces périodiques dans les hautes fréquences, donc on essaye d'extraire ça, tant bien que mal, et de voir si c'est assez significatif pour être, qu'on soit sûr que cette image, elle sort des outils tels que Midjourney, etc.
Et pour la vidéo, du coup, c'est un problème qui est complètement différent parce que les optiques de caméra sont différentes et il y a des problèmes de keyframe, de compression, etc. Ou est-ce que c'est un problème qui est relativement similaire ?
C'est différent parce qu'il faut tout refaire, mais la même approche fonctionne. Mais c'est plus compliqué parce que typiquement, prenons effectivement juste la compression. La compression vidéo est bien plus complexe que la compression d'image. Déjà parce que compression d'image, on a un standard. Après, on a deux autres formats qui se rajoutent, mais c'est pour l'instant très minime. La vidéo, c'est vraiment très complexe. Les keyframes, il y a énormément de choses qui peuvent varier. Mais d'un autre côté, une vidéo, c'est plein d'images. Donc on a beaucoup plus de ressources. Si on veut par exemple modéliser notre bruit d'image ou de vidéo, on a plus de contenu pour le faire, alors qu'une image, on est limité par juste les pixels qui sont dans l'image. Et on travaille effectivement là-dessus aussi pour détecter donc les deepfakes, donc c'est comme les croisons-les de Guillaume Tessé mais en vidéo du coup, ou même des vidéos générées toutes fausses.
En fait, ça marche pas en temps réel. C'est pas sur le flux vidéo. En temps réel, tu détectes le flux vidéo est falsifié. C'est après, dans l'analyse de la vidéo, tu vois qu'il y a quelque chose qui a été modifié dans le codage de la vidéo qui suppose que ça a été falsifié.
Exactement.
Ouais, mais comme tout le monde rajoute des trucs dans les vidéos, comme cette vidéo a été téléchargée sur tel site, tout le monde rajoute des trucs sans arrêt sur les vidéos. Elles sont toutes falsifiées, en fait, les vidéos.
Alors, dans les métadonnées, pas dans la vidéo.
Si, parfois, t'en as qui rajoutent leur logo.
Ah oui, bah ça, on le détecte aussi.
Mais tout le monde, lorsque quelqu'un télécharge une vidéo, automatiquement, le site il met « cette vidéo a été téléchargée sur tel site » à l'intérieur de la vidéo.
Mais dans quel site vous allez?
t'as vu ça où, toi, Hervé? Non, mais par contre, sur des DivX, enfin, DivX, ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais des films Warez, t'en as certains qui savent que ça vient d'une origine avec watermarké, et tu vois certaines zones qui sont floutées parce qu'ils savent que le watermarking, il est à cet endroit-là, donc ils le floutent, ce qui fait que ton film, t'as une petite zone qui est un peu floutée, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Enfin, j'ai lu ça sur Wikipédia, hein, tu vois, je ne téléchargerai de films.
Il y a énormément de vidéos avec une petite zone floutée, oui.
Bah ça, c'est parce qu'ils ont fait un watermarking visible, alors qu'on peut faire des watermarking invisibles. Donc là, les gens, ils ne sauraient même pas ce qu'ils doivent flouter. Et donc, le problème serait résolu. Bah voilà, il faut leur dire...
Ok, Tina, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin?
Il ne faut pas croire ce qu'on voit. Jamais.
Ok, bah sur ces messages pleins d'espoir, Tina, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.